Europe 1, 15h, 16h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Bonjour. C'est certain, chacun de mes invités aujourd'hui pourrait s'exclamer « Quand j'entre en scène, j'entre chez moi ». Tant la passion de leur métier infuse leur vie. Et oui, je reçois Pierre Arditi et Michel Leb, réunis au Théâtre des Nouveautés à Paris pour un duo, à moins que ce ne soit un duel, signé Philippe Claudel, mis en scène par Bernard Murat et intitulé « Le compromis ».
Europe 1.
Bienvenue à tous les deux.
Bonjour.
Il se cache derrière une tasse de café. Alors, Pierre Arditi, Michel Leb, lequel le premier a donné rendez-vous à l'autre pour ce duo vraiment inattendu?
Bah écoutez, alors je prends la parole si vous le permettez. J'ai eu entre les mains cette pièce il y a environ 2 ans et demi, que Philippe Claudel m'avait gentiment envoyée, que j'ai lue, mais vraiment rapidement et passionnément. Et la première personne que j'ai vue dans le rôle de Denis, c'est Monsieur Pierre Arditi qui est ici à ma droite.
Voilà, et qui lève les yeux au ciel.
Voilà. Et puis donc, de Pierre Arditi à Bernard Murat, il n'y a qu'une feuille de papier amicale et très très chaleureuse. Donc Pierre a téléphoné à Bernard pour qu'il fasse la mise en scène. Et voilà.
Alors, cette pièce spirituelle et mordante, eh bien, effectivement, elle met en scène 2 amis de longue date. Vous, Pierre Arditi, qui jouez un comédien à la carrière médiocre. Et vous, Michel Leb, qui incarnez un dramaturge raté. Votre personnage, Pierre Arditi, vend son appartement. Et puis, en attendant donc l'acheteur pour signer le compromis de vente, voilà que le ton entre les deux copains vire allègre au point qu'ils vont oser se dire frontalement ce qu'ils n'ont pas osé se dire pendant 34 ans. L'amitié, finalement, eh bien, c'est aussi complexe que l'amour.
Oh, mais c'est quelquefois encore plus complexe que l'amour, parce que c'est... L'amour, quand ça se casse, bon, ça se casse, c'est assez clair. Tandis que l'amitié, ça passe, comme le dit Claudel d'ailleurs, par des compromis multiples et variés. Et l'amitié, la vraie amitié, elle se nourrit de compromis, et ces compromis ne sont pas des reniements ni des trahisons, ce sont des preuves d'amour.
Mais voilà. Est-ce qu'on a vraiment le temps de cultiver l'amitié, Pierre Arditi, quand on a des métiers aussi narcissiques que les vôtres?
Oh, bah oui, heureusement d'ailleurs, c'est même... C'est presque plus indispensable d'avoir au moins 1 ou 2 amis chers importants qu'on peut réveiller à 4h du matin pour faire part de ses états d'âme, qu'on ne peut pas toujours faire avec l'autre personne qu'on aime, parce qu'on ne peut pas forcément tout lui dire.
Bon, alors voilà. Vous oseriez appeler l'un et l'autre, vous téléphoner à 4h du mat?
Mais bien sûr, mais comment donc?
Bah, c'est-à-dire que bon, je dors toujours très très profondément, lui dort jamais. Donc je peux l'appeler à n'importe quelle heure de la nuit, ça ne le réveillera pas, il ne dort pas.
Bon alors revenons à cette pièce baptisée Le Compromis. Elle se déroule juste avant l'élection présidentielle de mai 81. Quelle patine ça donne à la pièce? Est-ce que, en fait, ça nous pousse à observer autrement les personnages?
C'est-à-dire que, oui, la pièce commence, ils sont entre les deux tours de l'élection présidentielle de 81, à laquelle François Mitterrand va être élu. Et donc, il se remémore la confrontation qui a eu lieu entre Giscard et Mitterrand sur le premier tour, et il parle d'un espoir que ça réveille chez eux, puisqu'ils sont plutôt de gauche, que ça va être la fin des compromissions, des corruptions, des magouilles, tout comme ça. Et finalement, tout ça pour en arriver quelques minutes plus tard, à être dans les pires compromis, magouilles, hypocrisies, comme ça. Donc, en fait, il a choisi cette phase de vie parce qu'elle est magnifiquement contradictoire avec ce qu'eux-mêmes trimballent dans l'existence. Quoi. Alors, c'est le comique qui vient de là. C'est pas du tout une pièce politique. Hein.
Ouais,
au contraire,
ouais.
c'est une pièce de gredin. C'est 2 gredins. Hein, voilà.
Deux voyous,
2 salopards. Mais bon, ils sont bien, ils sont marrants.
Alors, Michel Leb, Pierre Arditi, l'aigreur d'une vie médiocre sans vrai succès, elle infuse avec beaucoup d'humour, donc pas mal de vos répliques. Or, vous êtes 2 stars à l'exact opposé de vos personnages. Comment vous auriez vécu ce métier si vous aviez dû le faire dans l'ombre, comme la plupart des comédiens?
Comment on aurait fait? Mais je ne sais pas, en tout cas, je ne suis pas certain que j'aurais accepté de vivre dans la médiocrité d'une chose non réussie. Dans ces cas-là, je crois, je ne peux pas le jurer, et que je me serais tourné vers autre chose. Mais en même temps, ce n'est pas forcément vrai, parce que c'est un métier qui est si prenant et si attachant qu'on en connaît, nous, des gens qui n'ont pas vraiment réussi, qui n'ont jamais réussi à raccrocher. Parce qu'ils ne peuvent pas lâcher le métier. Tu connais ça, toi, mon petit Michel. T'en as connu des gens comme ça.
Des gens qui ne pouvaient pas raccrocher.
Bah oui,
bah non,
bah
c'est
oui,
impossible.
Voilà, et qui ont eu des existences médiocres, mais ils ne pouvaient pas. Quoi, voilà.
Mais avec une passion magnifique.
Bah oui.
Alors, revenons à cette pièce baptisée Compromis. Je parle d'un duo-duel, mais il y a quand même un troisième larron qui va faire irruption. Oui. C'est l'acheteur de l'appartement. Quel rôle va-t-il jouer donc dans ce règlement de compte, nourri par toutes les désillusions de votre vie, de vos vies?
Bah, il va déjà commencer par faire quelque chose cette année. Il va nous bouffer le foie parce qu'il est tellement bien.
Il est formidable, ça.
Il est absolument merveilleux.
Alors, il faut donner son nom déjà.
Stéphane Pezra. On ne le connaît pas beaucoup. Il a 40 ans. Il est adorable. Il a une petite tête de lutin. Hein, oui. Et il est, honnêtement, proprement, il est génial.
Il est d'une efficacité redoutable sur scène.
Il est irrésistible de drôlerie. D'ailleurs, il fait un triomphe. Hein. Il fait vraiment un triomphe. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'en fait pas.
Non.
Enfin, il est plus inattendu que nous, parce que nous, les gens nous connaissent. Tandis que lui, les gens le découvrent. Et il est tout à fait extraordinaire parce qu'il sert de catalyseur à tout ce qu'on s'envoie à travers la tronche, d'une part. Et d'autre part, on finit par inventer une autre vie par rapport à lui pour pouvoir fourguer ce fameux appartement et pour pouvoir continuer de se dire ce qu'on a à se dire sans qu'il s'en doute. Voilà. Et lui pense que nous sommes auteurs et acteurs d'une pièce qu'on ne jouerait que pour lui. Donc c'est irrésistible, parce que tout d'un coup, il vit quelque chose comme un cadeau précieux, alors que simplement,
on est en train d'entuber.
Et de l'entuber, comme dit très aimablement mon camarade.
Voilà.
Europe 1. Bon, vous l'avez compris, Pierre Arditi et Michel Leeb jubilent tous les soirs sur la scène du Théâtre des Nouveautés à Paris. On fait une très courte pause, on les retrouve dans un bref instant. C'est bon, à tout de suite.
Vous écoutez, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Cet après-midi, Isabelle Morizet reçoit Pierre Arditi et Michel Leeb à l'occasion d'une pièce de théâtre.
La pièce s'appelle « Compromis », elle est signée Philippe Claudel. Et ce sont deux grands fauves, Pierre Arditi et Michel Leeb, qui la portent au Théâtre des Nouveautés à Paris. Alors, cher Michel, cher Pierre, l'enfance et l'adolescence de l'un n'a rien à voir avec celle de l'autre. Et pourtant, eh bien, elles vous ont tous deux conduits au même endroit, c'est-à-dire sur scène. Pierre Arditi, vous avez eu une enfance heureuse, rue des Martyrs, à Paris, auprès d'un père peintre, dont le talent sera reconnu plus tard, un père qui, parfois d'ailleurs, signait des décors de théâtre, et dont le cousin, je l'ai appris, Jacques Canetti, avait lancé le cabaret des Trois Baudets, où vous avez vu débuter Brel, Béart, Gainsbourg, De Vos, c'est vrai ?
Oui, Fernand Reynaud, bien sûr, oui, Yves Robert... Oui, c'était merveilleux, absolument merveilleux. Mais d'ailleurs, curieusement, c'est ce qui a le plus marqué ma petite enfance, le théâtre aussi, mais pas de la même manière. Parce que comme mon père, qui était le cousin de Canetti, était dans les coulisses, donc il pouvait nous présenter tous ces gens-là, qu'on a vu, De Vos m'a fait sauter sur ses genoux. Hein. Bon, alors évidemment, ça m'a beaucoup plus impressionné que les acteurs que je voyais au théâtre, mais que je ne pouvais pas voir après. Quoi.
Ou donc, plus impressionné que la peinture également.
De toute façon, alors là, la peinture, c'est extrêmement simple. Grâce à Dieu, je n'ai pas choisi ce métier parce que sinon, là, j'aurais été dégagé et liquidé dans la minute qui suit, que je n'ai jamais eu aucun talent pour faire ça. Mais vraiment, c'est une nullité pathétique. Mais ça n'a pas d'importance puisque je ne devais pas devenir peintre. Mon fils qui l'est devenu.
Voilà. Alors, votre maman, Pierre Arditi, était musicienne, elle jouait du piano, mais vous dites, maman était surtout femme de peintre, ce qui est un métier à part entière, surtout avec mon père, il faut nous expliquer.
Ma mère, elle n'a pas été la seule. Mon père aussi a fait bouillir la marmite, mais pas de la même manière. Et ma mère a fait de la couture, il n'y avait pas de fric chez nous, hein. Il y avait tout le reste. Il y avait l'éducation, il y avait l'intelligence, il y avait la poésie avec les enfants, ils ont fait pour nous tout ce qu'il fallait faire, mais il n'y avait pas d'argent, voilà, ou pas vraiment. Et donc ma mère faisait bouillir la marmite, elle torchait les enfants, elle faisait de la couture, elle réparait des robes, et comme ça. Et mon père, qui était un type absolument admirable, mais qui était un véritable emmerdeur, un ours et un chieur, l'a emmerdé toute sa vie. Mais bon, il l'adorait, hein. D'ailleurs, mon père a toujours eu l'air d'avoir 25 ans de moins que son âge véritable. Et le jour où ma mère est morte, dans la seconde qui a suivi, il a eu son âge. C'était extraordinaire. Je l'ai vu de mes yeux vus. Quand ma mère est allée faire un tour dans les étoiles, j'avais 37 ans, donc j'étais plus un enfant. Et j'ai vu mon père, tout d'un coup, prendre 25 ans dans la figure en 20 minutes.
Alors, votre enfance, à vous, Michel Leeb, elle a été... pulvérisé par le divorce de vos parents, car très jeune, on vous a placé en pension chez les jésuites, au collège Saint-François de Sales. Certains enfants rêvent de fuguer, ils n'osent jamais le faire. Vous l'avez fait.
Oui, oui, parce que quand on est en pension à 10 ans, on n'a qu'une envie, c'est de se tirer. On ne supportait pas ça, donc c'était ma façon à moi de m'évader. Donc je faisais le mur la nuit, on me retrouvait dans Évreux, dans des bars perdus.
Et à 10 ans ?
Ouais, je me tirais, je sautais le mur, je quittais le dortoir à minuit, 1h du matin, je me tirais, j'allais dans...
Mais pas pour aller retrouver votre mère, donc.
Pour partir
à l'aventure.
Non, je partais,
à 10 ans.
On était 3-4 à faire le mur, on se retrouvait dans les rues, on venait nous chercher, enfin, ça a eu lieu 3-4 fois comme ça, puis bon, finalement, j'ai été viré définitivement au bout de quelques années, parce que j'étais organisateur de chahut, quoi. J'étais vraiment insupportable.
Vous êtes resté combien d'années sans jamais revoir votre père, qui avait changé de vie et de pays, je crois,
d'ailleurs. 25 ans, oui.
25 ans. 25 ans à l'imaginer ou 25 ans à bâtir, écrire votre histoire, surtout en essayant de ne pas vous retourner vers ce passé mélancolique.
Bah, c'est-à-dire, d'abord, il était très loin, il était aux États-Unis, donc ce n'était pas très simple pour moi d'aller le rejoindre. Et puis, un jour que j'étais en tournée, en Suisse d'ailleurs, il a appris que j'étais pas très loin de lui. Il vivait, lui, en Autriche, tout à fait à côté. Il m'a laissé un message dans ma loge, en disant qu'il avait l'intention de nous revoir, moi et ma sœur. Et ce qui a eu lieu d'ailleurs, c'était assez particulier.
Un quart de siècle plus tard.
C'est assez particulier, voilà. Bon, c'était une période assez difficile, mais en même temps complètement surréaliste, parce qu'à l'époque, j'étais à l'Olympia. Et revoir son père dans la salle avec sa mère, enfin avec sa femme, qui était ma mère, et que j'avais organisé cette soirée de façon à ce qu'ils ne soient pas l'un à côté de l'autre, mais à l'extrémité d'un rang l'un et l'autre, et que mon père étant... on ne comprenait pas très bien tout ce qui était spectacle, ça ne l'intéressait pas passionnément, avait profité d'un petit moment du spectacle où il ne se passait peut-être pas grand-chose pour sortir de la salle et d'aller boire un verre chez Marilyn, qui était le bar qui se trouvait
derrière, où se retrouvaient tous les artistes.
Voilà. Et se siffler une petite bouteille de vin blanc et de retourner dans la salle, de se tromper de porte et de se retrouver sur scène. C'est-à-dire qu'il s'est trompé. Donc il était avec moi sur scène. Ma mère a vu arriver un mec qu'elle connaît depuis des lustres, mais enfin ça faisait 20 ans qu'elle ne l'avait pas vu, et elle le voit débarquer sur scène.
On ne saurait pas l'écrire,
absurde,
n'est-ce pas, dans un scénario.
Et moi, je ne savais pas qu'il était là, parce que je suis face au public, et il est venu s'installer à côté du batteur. Il avait une chaise, il s'est installé là. Donc il a assisté au spectacle, à la suite du spectacle, assis à côté du batteur, ce qui est complètement surréaliste, quoi.
Et quand vous êtes retourné?
Et ben, quand je me suis retourné, je l'ai vu assis, donc j'ai eu un moment de stupeur, de stupéfaction, et en même temps, je ne savais pas du tout ce qui se passait.
Vous l'avez présenté au public ou pas?
Non, pas du tout, et à la fin du spectacle. Je suis retourné dans ma loge avec lui, je lui ai dit « qu'est-ce que ça veut dire ?» Il me dit « je me suis trompé des portes, et etc. » Il avait cet accent un peu particulier. Et il me dit, arrivé dans la loge, il me dit « est-ce que ce serait possible d'avoir un petit whisky ?» Je lui ai dit « oui, bien sûr, je te prends un whisky. » Ma mère arrive à ce moment-là, avec son compagnon de l'époque. Je lui ai dit « tu pourrais te lever ?» Il se lève, il fait un effort considérable. Je lui ai dit « maman, je te présente papa. » C'est pour vous dire que l'histoire est quand même, a débuté quand j'avais 10 ans, elle se termine à cet instant-là. Et alors il lui fait un baise-main comme ça. Il voit le compagnon, il le regarde, il lui serre la main. Les deux s'en vont, on se rejoint au restaurant plus tard. Ok, la porte se ferme. Et là, il me regarde, il me dit « comment est-ce qu'on peut mettre un foulard vert avec un blazer bleu marine ?» Je ne comprends pas. En parlant du compagnon. Donc,
tout...
ça veut dire que c'est toute une histoire.
Voilà,
c'est-à-dire
ce que ça lui avait
jalousie,
inspiré.
Il y a une histoire d'amour qui s'est détruite, mais d'une façon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui a été assez violente et assez douloureuse. Pour eux, pour nous, les enfants, et enfin, c'était un cataclysme. Mais cette réflexion-là, à cette seconde-là, ça racontait exactement tout ce qu'il avait dans la tête depuis 25 ans, en fait.
Europe 1.
Je reçois cet après-midi deux acteurs dont les vies romanesques sont de véritables films. On fait une pause et on retrouve tout de suite Michel Leeb et Pierre Arditi.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie, se poursuit avec Isabelle Morizet et ses invités, Pierre Arditi et Michel Leeb.
Tous les soirs, Pierre Arditi et Michel Leeb s'affrontent sur la scène du Théâtre des Nouveautés à Paris dans la pièce de Philippe Claudel, Compromis, mais cet après-midi se prête un autre exercice et franchement c'est jubilatoire. Alors cher Pierre, cher Michel, puisqu'on est pour toujours, dit-on, du pays de son enfance, eh bien, j'aimerais rester un tout petit moment sur ce chapitre. Pierre Arditi, votre père était donc peintre et vous dites qu'enfant, l'imaginaire de votre père vous a donné des ailes car la peinture, un peu comme le théâtre, la peinture est une vérité qui ment. On y croit et on entre dans le tableau, c'est ça ?
Oui, je me suis beaucoup baladé dans les tableaux de mon père quand j'étais petit, enfin, dans la période des années 40. Hein. Donc moi je suis né en 44, pratiquement 45, donc cette période-là était très figurative, très belle d'ailleurs. Alors, il y avait toujours des portes avec des paysages qui n'existaient pas. Mais donc, il faisait rêver. Je me baladais comme ça. Et alors, ce qui était extraordinaire avec mon père, c'est qu'on ne pouvait pas s'approcher de ses toiles. Quand il peignait, il fallait qu'on soit à une distance respectable parce qu'il avait peur qu'on tape sur un truc comme ça. Donc, on ne pouvait pas s'approcher. Alors, on disait, mais papa, il disait, non, t'approches pas. On ne s'approchait pas. Bon, très bien. Et mon fils, qui est donc son petit-fils,
Et qui est peintre.
Oui, il a épousé cette carrière-là, grâce à son grand-père d'ailleurs, il était complètement impressionné par son grand-père, et il a voulu faire la même chose, il est peintre, et il a beaucoup de talent. Et mon fils, donc, quand il était petit, lui, regardait mon père, son grand-père peintre, et alors, un jour, on est rentré comme ça dans son atelier avec ma sœur, Catherine, qui elle non plus n'avait pas le droit de s'approcher des tableaux de son père, et mon fils était dans les bras de son grand-père, il avait un pinceau, et il peignait sur le tableau de mon père. Alors, ma sœur et moi, on a failli avoir un infarctus du myocarde. On lui dit, mais toi, tu te fous de notre gueule. Non, mais ça va pas. On n'a jamais eu le droit d'approcher d'un de tes tableaux. Et l'autre petit connard, il est en train de peindre sur toi. Il fait, oui, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Je passerai le couteau, puis je repeindrai derrière. Mais va, mon chéri, vas-y. Mais oui, mon chéri, vas-y, fais caca sur le tableau. Ton grand-père te le permet, il n'y a pas de problème. Donc, n'importe quoi, c'était absolument admirable. Enfin, si attends, ça n'a pas été pour rien, parce qu'il a, mon fils a peint tous les murs de l'atelier de mon père. Et puis il est devenu peintre. Et il a bien fait. C'était absolument charmant. Mais ça a bercé ma vie, tout ça. Quoi. Alors, ça continue de la bercer.
Vous dites, Pierre Arditi, que votre père a été un phare pour vous un sur phare, le plan oui. intellectuel et artistique, mais pas sur le plan humain, car l'homme que vous êtes devenu, c'est à votre mère que vous le devez.
En
plutôt.
Oui et non. Enfin, c'est pas aussi simple que ça. Mais disons que mon père a fait l'acteur et ma mère a fait l'homme. Voilà, je crois quand même que c'est plutôt ça. Ma mère disait toujours que un homme qui ne pleure pas n'est pas un homme. Et je pense qu'elle avait raison, absolument. Donc c'est pour ça d'ailleurs que je pleure plus souvent qu'à mon tour, et surtout avec l'âge maintenant.
J'ai appris une chose très frappante, Pierre Arditi. Il paraît que vous avez refusé d'assister à la levée du corps de votre maman,
ah oui.
et vous ne voulez pas savoir où se trouve sa tombe. C'est pour continuer de croire qu'elle n'est pas morte, c'est ça?
Non, j'ai pas besoin de ça. D'ailleurs, je sais où est sa tombe maintenant, puisque mon père, qui est mort beaucoup plus tard qu'elle, il avait presque 100 ans, est enterré à côté d'elle au cimetière Montparnasse. C'est moi qui avais pris cette concession, parce qu'à l'époque, j'habitais là, et je voulais que ma mère soit près de moi. Et je sais où ils sont maintenant. Non, je n'ai pas voulu voir l'image de ma mère morte et l'image de mon père mort. Je n'ai pas voulu emporter avec ça dans ma mémoire. Ma sœur est allée, elle a vu tout ça. Elle s'est ouvert le cœur avec un poignard pour toujours, et moi, je n'ai pas voulu vivre ça. De toute façon, je sais très bien que dans cette boîte, il n'y a ni mon père, ni ma mère. Il y a quelque chose qui est une espèce de peau qui est absolument inutile. Et mon père et ma mère sont tout à fait vivants dans mes poches, dans mon cœur, et ils n'en sortiront jamais. D'ailleurs, c'est bien simple. Chaque fois que je rentre en scène et qu'il faut que quelque chose se déchire en moi, j'ai qu'à faire appel à eux, et ils n'ont jamais été aussi vivants.
J'imagine que ce déni, entre guillemets, est quelque chose que vous parvenez tout à fait à admettre. Michel Leeb.
Ce que dit Pierre, et c'est la vérité. C'est-à-dire que, bon, je n'ai plus mes parents non plus. Il y a une chose qui disparaît jamais, qui ne disparaîtra jamais, c'est la pensée, c'est l'esprit. C'est-à-dire cette puissance qui est là en nous, qui est la transmission d'une réalité, qui est celle de la pensée et de l'esprit. Donc, je suis absolument convaincu que l'existence de mes parents, la vie de mes parents, vit à travers ce que je suis, ce que je pense, ce que j'ai envie de faire, ce que je projette pour mes enfants. C'est eux qui me l'ont transmise d'une certaine façon, et moi je vais leur transmettre. Donc cette vérité-là, elle est fondamentale pour moi, parce que c'est leur existence à travers l'esprit que je peux en avoir.
Et voilà. En même temps, c'est parce qu'ils vous auront si cruellement manqué pendant toute l'adolescence, oui. vos parents, puisque vous étiez en pension, vous avez été mis à 10 ans en pension, que vous avez, en fait, vous préservez comme un forcené la famille que vous êtes recréée, c'est ça?
Oui, parce que je me suis donné pour tâche de ne jamais faire, j'ai une obsession dans la vie, c'est celle-là, c'est de faire en sorte que cette famille ne se disloque jamais. Voilà, parce que j'ai souffert de ça, évidemment. Donc aujourd'hui, tout ce que je fais a pour obsession, vraiment une obsession, que ma famille soit vraiment le socle, le lieu où moi je me récupère, où je me retrouve, où je me reconstruis quand je suis en situation de détresse de mille manières. Et je sais que c'est là que je retrouverai ma force, que je retrouverai l'équilibre. Et eux, jamais je ne leur ferai subir, quoi qu'il arrive, ce que j'ai pu subir quand j'étais enfant. Donc, voilà, la famille, pour moi, c'est fondamental. Alors, bien sûr, à la différence de Pierre, mon père n'était pas mon idole, c'était pas mon maître, c'est pas quelqu'un que j'ai respecté. C'est quelqu'un qu'au contraire, j'ai irrespecté, si ce mot existe. Et en revanche, ma mère, évidemment, représentait tout pour moi à ce moment-là, puisqu'elle a assumé complètement cette situation de détresse, de se retrouver seule. C'était une femme au foyer, c'est une femme qui s'occupait de ses enfants très bien, et du jour au lendemain, elle était obligée de travailler, parce que mon père s'est fait la valise. Et donc là, on avait en face de nous une femme qui a assumé l'éducation de ses enfants jusqu'à la fac. quoi, pratiquement. Donc cette femme, en plus, qui était artiste, hein, vraiment dans l'âme, qui n'a jamais fait ce métier.
Mafalda. Italienne, d'une grande beauté.
Oui, très très belle femme, qui était bon, douée pour le dessin, pour la chanson, pour la comédie. Elle passait son temps à se déguiser, à nous organiser des spectacles. Elle était extrêmement douée pour ça. Et donc, elle nous a transmis cette envie d'être sur scène, de faire de la scène et de jouer la comédie, ou de chanter, ou de faire l'artiste, quoi. Et c'est vraiment ça. Et donc, elle reste pour nous, pour moi en tout cas, un phare et quelque chose que je garderai toute ma vie, évidemment, dans mon cœur, définitivement, quoi. C'est ce qui est normal, la moindre des choses.
Europe 1.
Eh bien voilà, c'est d'amour et de transmission qu'on parle cet après-midi en compagnie de Michel Leeb et de Pierre Arditi, qui sont réunis en ce moment sur la scène du Théâtre des Nouveautés à Paris pour la nouvelle pièce de Philippe Claudel, Compromis. À tout de suite.
Vous écoutez Il n'y a pas qu'une vie dans la vie jusqu'à 16h sur Europe 1. On retrouve Isabelle Morizet et ses invités Pierre Arditi et Michel Leeb.
Le théâtre les réunit et c'est une superbe idée. Pierre Arditi et Michel Leeb refont le monde sur la scène du Théâtre des Nouveautés à Paris dans une pièce de Philippe Claudel, Compromis. Donc, pour vous, eh ben, je les ai également réunis. Alors, cher Pierre, votre petite sœur, la comédienne Catherine Arditi, affirme que, adolescent, eh ben, vous aviez la vocation théâtrale sans oser l'avouer à personne. Votre sœur, en revanche, a tenu tête à tout le monde pour monter sur une scène de théâtre, puisqu'il paraît qu'elle est partie travailler à l'usine, sur la chaîne de l'usine de potage Magie, pour pouvoir se payer des cours. J'aimerais bien savoir, si elle n'avait pas la première ouvert grand les portes, votre petite sœur, est-ce que vous seriez devenu comédien, Pierre Arditi ?
Je ne sais pas, mais on baignait quand même dans un univers d'artistes, hein, artistiques.
Mais c'était plutôt la peinture, non ?
Oui, enfin la peinture, mais mon père, comme beaucoup des peintres de cette époque-là, a fait beaucoup de décors de théâtre. Donc il était très lié avec toute une série d'acteurs, de directeurs de théâtre. Donc on était un univers dans lequel on a baigné très 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 jeune, enfants, petits-enfants. Bon. Donc il aurait été un très bon acteur, mon père. Très bon. Il adorait ça d'ailleurs. Il nous a emmenés au théâtre, on avait 6 ans.
Pourquoi dites-vous il adorait ça d'ailleurs ? Parce que vous l'avez vu jouer, dire des textes.
Mais il a beaucoup, beaucoup. Enfin, vous savez, c'est cette époque où il y avait la Rose Rouge, où il y avait l'amiral Francis Blanche, Carmet, tous ces gens, ils sont venus à la maison. Hein. Bon, ouais. je les ai vus défiler. Bon, donc, c'est un univers. C'est l'univers des acteurs, des saltimbanques. Bon, c'était comme ça, la table était ouverte à la maison, même quand il n'y avait pas de fric. Il y a toujours un bout de saucisson, un bout de camembert et un coup de rouge. Donc, si ma sœur n'avait pas fait ça avant moi, j'aurais peut-être mis un petit moment, un petit peu plus longtemps. Mais mon père m'aurait, à coup de pompe dans les fesses, expliqué, ce qu'il a fait d'ailleurs, que ma vie n'était pas faite pour les compagnies d'assurance, mais que je devais devenir un artiste.
C'est à cette époque-là d'ailleurs qu'il vous a adressé une lettre en vous disant...
Non, c'est plus tard.
C'est plus tard.
Oui, cette lettre,
tu fais
gardée.
N'importe quoi.
Non,
mais
non,
c'était
non,
pour
non.
quelle raison ?
Non, c'est une lettre que j'ai gardée. Elle est très précieuse, cette lettre. De temps en temps, quand je me perds, je la relis. Quand ça a commencé vraiment à marcher pour moi... Alors, c'était beaucoup plus tard, là, on fait un saut hein, dans le...
Oui.
J'étais très demandé, vous savez, quand ça commence à marcher, alors machin, les télés, les trucs, les journaux, machin comme ça. Puis je finissais par faire un peu n'importe quoi, sur des choix aussi, probablement artistiques assez moyens, mais aussi, je voulais faire des émissions à la con, des trucs comme ça. Et à un moment donné, il m'a envoyé une lettre en disant « mon fils ». Et il m'a dit « tu m'en voudras de t'écrire cette lettre, mais je ne peux pas faire autrement. Je crois tellement en toi, tu as une telle valeur pour moi que je ne peux pas te laisser te perdre à ce point-là maintenant que les gens commencent à te reconnaître. C'est maintenant qu'il faut que tu fasses attention à toi et à ce que tu décides de toi-même. » Voilà. En gros, la lettre est beaucoup mieux écrite que ça, mais c'était ça. Cette lettre, évidemment, elle a été une gifle pour moi. Une gifle. Parce qu'elle disait vrai. C'est-à-dire que je me perdais. Et je l'ai gardée. Et quand tout d'un coup, j'ai l'impression que je m'égare ou que tout d'un coup, quelque chose n'est pas tout à fait ce que je m'étais promis, je la ressors et je la relis.
C'est la valise
dans la nuit. Ça me fait un peu pleurer. Et puis j'essaie de m'améliorer dans la minute ou les minutes qui suivent. Mais encore une fois, je pense que cet univers-là était le mien, mais je ne voulais pas m'y autoriser au début de ma vie. Et comme il n'y avait pas d'argent dans la maison, je me suis toujours dit que je serais celui par lequel l'argent rentrerait dans la maison.
Alors, Michel Leeb, vous, après vous être, vous allez me pardonner si je dis après vous être mollement essayé à une vie de prof de philo.
Mollement,
eh bien,
très mollement.
Voilà,
très mollement,
eh bien, vous êtes rendu à l'évidence. Effectivement, votre voix, c'était l'humour. Et j'aimerais vraiment que vous nous racontiez comment, alors que vous étiez vraiment un débutant totalement inconnu, hein, qui jouait dans un tout petit cabaret, vous avez réussi à avoir les encouragements et la bénédiction de Jerry Lewis en personne.
quand j'étais gamin, je regardais donc les films de Jerry Lewis au cinéma avec Dean Martin. C'était effectivement un duo absolument époustouflant. Ben, moi, j'étais complètement fasciné. Bon, très bien, les années passent, etc. Et un jour, Jerry Lewis est à Paris, à l'Olympia. Moi, je suis dans une pizzeria. Je fais un petit numéro dans une pizzeria à quoi vers à minuit, une heure du matin. Bon, voilà. Et je fais une imitation de Jerry Lewis, en particulier La Machine à écrire, qui est un sketch qu'il a rendu, évidemment, très célèbre. Bon, voilà. Alors, je faisais ce sketch-là, puis Jerry Lewis était à l'Olympia. Bon, je me pointe à l'Olympia un soir, je me fais passer pour un journaliste belge, je fais la blague, je rentre finalement dans la loge de Jerry Lewis, qui me voit, il me dit « Alors, qu'est-ce que vous voulez exactement ?» Donc, je lui dis « Enfin, je ne suis pas du tout photographe, ni rien du tout, je suis fan. » Et voilà, je passe tous les soirs dans une petite pizzeria à Paris, à Montparnasse. Voilà, je fais une imitation de vous-même. Voilà, il me dit « Ah oui, c'est à quelle heure ?» Je lui dis bah, « c'est à minuit, une heure du matin. » Il dit « Moi, je finis à 11h30, je viens demain. » Je lui dis « C'est pas possible. » Je rêve. Il me dit « Si, ça m'intéresse de savoir ce que vous faites. » Bon, très bien. Le lendemain, évidemment, je préviens la direction de la pizzeria en question. Il y a 10 tables, 12 tables, et puis voilà. Je lui ai dit tout à l'heure, il y a Jerry Lewis qui viendra. Mais bien sûr, évidemment, Jerry Lewis va venir, le pape, et bien sûr. Non, mais je vous assure que c'est vrai. Bon, bref. Et effectivement, je suis sur scène et à minuit moins 10, arrive Jerry Lewis avec une journaliste d'ailleurs très connue de l'époque qui s'appelait Jacqueline Cartier.
Et, oui.
Et donc, ils vont s'asseoir à une petite table au fond. Le public, évidemment, consterné. Parce qu'il faut dire une chose, Jerry Lewis,
ou plutôt
une star mondiale.
Bien sûr.
Une star énorme. Et donc, il s'installe au fond et je fais donc deux, trois sketchs, dont La Machine à écrire.
Enfin, du avec spectacle. Le track qu'on imagine.
Ouais, vous ne pouvez pas imaginer dans quel état je suis, ça n'a pas de sens. Bon, c'est indescriptible. Et puis alors, à un moment donné, voilà, c'est fini, tac, le rideau, machin, je rentre. Et Jerry se pointe dans les loges, les petites coulisses entre une casserole et un couvert quelconque. Bah, il vient vers moi, il me dit, faut continuer. Hein. Il faut continuer, c'est formidable. Et puis, on prend deux, trois photos, voilà, et il s'en va. Bah, rien que cette petite phrase, oui. Il faut continuer.
Bah, adoubé par Jerry Lewis.
Je vais continuer, je vais bien continuer. Et voilà, mais je continue. Voilà.
Alors, une carrière émaillée de mille choses, parce que vous, par exemple, Michel Leb, dont la deuxième passion est le jazz, et vous qui avez une voix de crooner, pourquoi vous n'avez jamais fait de comédie musicale?
Parce que c'est très difficile. À l'époque, en tout cas, je voulais faire ça ici, mais ce n'était pas du tout... dans la culture française, c'est quelque chose
qui... C'est une question d'époque.
Oh oui, oui. Bah, à l'époque, c'était... Bon, aujourd'hui, ça commence à venir, et encore. Oui, la première grosse comédie musicale qui a fonctionné, c'était Starmania. Bon, à l'époque, c'était pas exactement... J'étais pas parti dans cette direction-là. Mais j'aurais adoré faire ça. Mais les Anglais, évidemment, ça fait partie de leur culture, les Américains aussi. Et ici, à l'époque, c'était pas du tout ça. Bon, c'était pas du tout la culture à l'époque. Donc, puis le temps est passé, puis j'ai fait autre chose.
Puis ça, voilà. Vous l'avez fait avec de grands orchestres de jazz.
Big avec, voilà, avec Cambési, donc on peut parler de
voilà.
Ça.
Voilà. Cher Pierre Arditi, votre virtuosité à vous, bon, c'est qu'elle vous permet de tout jouer, de Guitry à Marivaux, de Brecht à Yasmina Reza, en passant par Jean Poiret ou Philippe Claudel, avec cette pièce qui vous réunit en ce moment au Théâtre des Nouveautés, à Paris, qui s'intitule Compromis. Puis d'ailleurs, j'ai oublié Rennais, parce qu'avec Alain Rennais, vous avez fait 11 films, n'est-ce pas? Mais il y a deux rendez-vous manqués, et pas des moindres, que j'aimerais que vous nous racontiez quand même. Parce que François Truffaut et Claude Sautet,
oui,
ils vous voulaient,
ça ne s'est pas fait. Non, ça ne s'est pas fait, Alors avec Truffaut, c'était Vivement Dimanche, c'était pour jouer avec Fanny, mais ce n'était pas le rôle de Trintignant, c'était le rôle de Laudenbach. Bah, c'était un beau personnage, c'était le rôle du tueur. Quoi.
Oui.
Et je ne pouvais pas, j'étais coincé complètement, je ne pouvais pas le tourner. Et Sautet, il est venu me voir jouer dans Audience et Vernissage de Vaclav Havel, comme René d'ailleurs. Et il avait envie de travailler avec moi.
Oui.
Oui. Et puis il a tourné autour, et puis ça a failli se faire, puis ça ne s'est pas fait. Et puis j'étais quand même coincé, j'ai beaucoup été coincé par le théâtre, et souvent, enfin coincé.
Parce que vous êtes un hyperactif.
Je l'ai choisi, ça.
Un boulimique, bon.
Et
le
donc,
sait.
Et donc, à un moment donné, ça ne s'est pas fait. Et puis après, il est parti faire un tour dans les étoiles, et donc, c'est un acte manqué. Bon, c'est dommage parce que Sautet est probablement un des metteurs en scène que j'admire le plus. Il y a Rennais Sautet, quoi. C'est la même valeur, c'est des univers extrêmement différents. Mais c'est ça, cette puissance-là. Et c'est un cinéma presque tchékovien. J'adore ça.
Europe 1. Il y a Rennais, il y a Sautet. Vous avez fait 11 films avec Rennais. Donc tout va bien. On s'interrompt un bref instant. On retrouve tout de suite Pierre Arditi et Michel Leb.
Ils ont beaucoup de points communs et ils sont les invités d'Isabelle Morizet cet après-midi. Pierre Arditi et Michel Leeb se racontent sur Europe 1. Vous écoutez, il n'y a pas qu'une vie dans la vie.
Tous les soirs, Pierre Arditi et Michel Leeb font vibrer le Théâtre des Nouveautés à Paris avec la pièce de Philippe Claudel. Compromis, mais cet après-midi, et c'est formidable, ils sont mes invités. Alors, à ma gauche, Michel Leeb, 1,5 hectare de vignes plantées dans le Luberon avec un Syrah Grenache en agriculture raisonnée. À ma gauche, Pierre Arditi, mieux qu'amateur, grand connaisseur, avec 8000 bouteilles de caractère, paraît-il, dans ses caves parisiennes. Eh bien, j'aimerais bien savoir, Pierre, si vous avez invité Michel à une dégustation à la maison, ou bien, Michel, si vous avez déjà invité Pierre Arditi à se promener dans vos vignes.
Non, oui.
C'est joli.
Alors, on nous a demandé d'être court, alors voilà, non et oui.
Alors, donc c'est à venir, n'est-ce pas?
C'est à venir, mais bien sûr que c'est à venir, ah oui, bien sûr, évidemment. Bien sûr.
Mais, bah oui, mais les 8000 bouteilles, c'est vrai, Pierre? Ah oui, et l'hectare
oui,
et demi
oui,
de vigne,
oui,
c'est vrai?
Oui, 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 oui. Moi, je n'ai pas de vigne, j'en ai beaucoup fréquenté hein, avec le centre de la vigne, mais... Mais oui, j'ai une jolie cave agréable, mais dans laquelle, bien sûr, cet énergumène viendra prendre ce qui lui fait plaisir pour le déguster, qu'on le dégustions ensemble.
Voilà, et il viendra dans mes petites vignes d'un hectare 150 exactement, où il y a 5000 bouteilles quand même. Voilà.
Hey, c'est quel
du Syrah Grenache.
C'est, oui, mais il y a une appellation.
C'est Côte du Luberon.
C'est Côte du Luberon.
Oui.
Il porte un nom, ce vin, Michel Leeb.
Le Clos du Tilleul.
Ah, je sais, parce que ce tilleul tricentenaire voilà, que vous aimez prendre dans vos bras,
oui,
vous lui parlez, n'est-ce
oui,
pas?
Oui, bien sûr, je lui parle, oui, oui. Oui, oui. Il me répond d'ailleurs.
Oui, oui. C'est pour ça qu'il joue comme ça, parce qu'il joue comme un tilleul. Voilà.
Je joue comme un tilleul, mais le tilleul frissonne quand il me voit arriver, je le sens.
Il est bien seul.
Il frissonne.
Alors, Pierre Arditi.
Allô.
Pierre Arditi, entre le...
Quel salaud.
Voilà, tout part en vrille maintenant. Entre le vin et la scène, il y a une notion commune, la notion d'ivresse, mais alors d'ivresse au sens baudelairien du terme, comme une extase, n'est-ce pas?
Une extase, absolument, oui. Mais je suis pour cette ivresse-là. Pas pour l'ivrognerie, voilà, oh si non, c'est ça que vous voulez me faire dire. Voilà, moi j'adore le vin et je ne suis pas pour la modération parce que je ne suis pas un homme modéré, mais je suis pour la raison, c'est-à-dire en réalité d'ailleurs pour l'initiation qui, comme vous le savez sans doute, est la culture du père. Alors on peut très bien boire du vin, en faire un ami jusqu'au moment où le vin ne devient plus un ami. Dans ces cas-là, il faut passer à autre chose, quitte à y revenir plus tard quand on est de nouveau ami avec lui. Et dans ces cas-là, ça simplifie tout.
Comme toujours, c'est Jean Carmet et Jean Poiret qui vous ont initié.
Alors c'est surtout Poiret.
C'est surtout Poiret.
C'est surtout Poiret. C'est aussi Maréchal, parce que quand j'ai commencé à jouer à Lille, c'était à Lyon. Évidemment, à Lyon, il y avait des bouchons et alors on pouvait boire des Côtes-du-Rhône et des Beaujolais génériques, mais qui étaient absolument délicieux, qui étaient excellentissimes. Il y a pas, c'était pas des grands vins, mais c'était des vins de plaisir qui étaient absolument, absolument formidables. Après, c'est Poiret qui m'a emmené dans des endroits, là, au Cave Le Grand, par exemple, où j'ai découvert des choses que je ne connaissais pas, comme par exemple le Saumur Champigny, à l'époque je ne connaissais pas, qui dans les années 80 était un vin très à la mode, et c'était le vin des acteurs.
Il y a beaucoup d'acteurs. Le vin des acteurs.
Oui, oui, Saumur Champigny, on connaît un Saumur Champigny, un truc comme ça, voilà. Voilà. Alors après, ils m'ont petit à petit formé, et puis après j'ai eu la chance de connaître et des vignerons, bien sûr, et des sommeliers, beaucoup, beaucoup, beaucoup de sommeliers, et c'est eux qui ont parfait... ma culture vinicole.
Voilà, mais il aurait pu y participer au Parker.
Oh non.
Mais oui, pas Charlie. Hein.
Oui, c'est lamentable, c'est absolument nul ça. Mais ça, c'est vraiment pour Happy Few, parce que bah, Parker, bah, oui, les gens, ça passe
alors,
pas.
Mais il va nous expliquer, mais si, Michel, oui, dites-nous, alors justement, bah, participez au Parker.
Parker est un très grand dégustateur américain qui a d'ailleurs pondu des livres et qui a été d'ailleurs... il est brillantissime, hein, c'est un quelqu'un qui pouvait goûter, je ne sais pas, 200, 250 vins dans la journée, qui était capable d'avoir une opinion sur chacune des gorgées qu'il avalait.
Extraordinaire.
Donc c'est extraordinaire. Bon, après, il avait certains goûts dans des vins, c'est-à-dire des vins un peu boisés, comme ça, un peu caramelleux, qui ont donc, comme il avait une telle influence sur le marché du vin, tout le monde a essayé de faire ce genre de vin pour pouvoir les vendre plus facilement. Et ça finit par faire des vins qui étaient pratiquement taillés de la même manière. Ils avaient tous le même goût. Et
formaté.
Ça, voilà, c'était trop formaté. Mais ça ne retire rien à Parker, qui est un grand bonhomme. Et d'ailleurs, tout ça est rentré dans un ordre très différent maintenant. Voilà.
Michel Leeb, avec ses vignes, donc, un petit peu plus d'un hectare, est-ce qu'il y a, en fait, pour vous, une notion de transmission? Parce que j'ai l'impression que le citadin que vous êtes... a vraiment envie de transmettre à ses enfants et puis de s'inscrire dans cette nature du Sud, non ?
Oui.
C'est-à-dire, bon, moi je trouvais que c'était sympathique, voyez-vous, de...
Alors, vous, là, pour nos amis auditeurs, franchement, il manque une caméra parce que...
Non, mais c'est très sympa, parce que...
C'est ça. Je trouvais sympa d'avoir des vignes. Alors, quand j'ai acheté ce terrain, il y avait des vignes, mais c'était du vin de table, bon, bah... Et alors bon, j'ai arraché toutes ces anciennes vignes, on a replanté ça. Bon,
oui, vous avez pris un maître de chais. Vous avez pris un maître de chais.
On a pris un maître de chais, etc. Enfin bref, il y a une grosse boîte qui s'occupe des vins, parce que moi je ne peux pas y être tout le temps. Donc tu connais la coquillade, non, du côté de Gargas.
Oui, très bien.
C'est eux qui gèrent tout ça.
Voilà. Très bien. Donc, voilà. C'est formidable la coquillade. Là, c'est vachement bien. C'est Sophie Vanek qui m'a fait les coquillades.
Bon, je vais essayer de les récupérer au lasso.
On a des racines communes.
En deux mots, on a des racines communes. On a beaucoup de points communs, finalement, même si on a des carrières différentes. Mais enfin, on a beaucoup de points communs. Bref, ce qu'il y a, c'est que, par exemple, moi, je trouvais ça assez amusant d'avoir des vignes et de s'occuper de la restauration d'une chapelle. Pourquoi ? Parce que je trouvais que c'était amusant de les appeler les vignes du Seigneur. Je trouvais que c'était assez joli.
C'est absolument pathétique. Et il faut bien comprendre
que... Alors la chapelle, ça y est, elle est restaurée, la chapelle d'Opel.
Ils ont depuis longtemps passé sur une autre chaîne de radio.
Que Hubert Cohen aurait adoré, naturellement. D'ailleurs, comme disait mon ami Jean d'Ormesson, je trouvais merveilleux, et il n'est pas interdit de rêver. De rêver à une sorte de, comment dire, une sorte de grande synthèse entre la grappe et le clocher.
Bon, je pense qu'il faut s'arrêter sur cette phrase. C'est formidable. On fait une pause et il reste avec nous. Imaginez comment on est gâté. On trouve tout de suite Pierre Arditi.
Prévenez les vôtres que vous ne les reverrez pas tout de suite parce que c'est une émission qui n'en finit plus.
Pour l'instant, vous vous taisez. On vous retrouve tout de suite. C'est en compagnie de Pierre Arditi et de Michel Leb qu'on chemine cet après-midi et c'est épatant. Pierre Arditi, alors je sais que votre mantra, c'est vivre une vie par jour, mais est-ce que vous êtes un tout petit peu calmé côté hyperactivité, parce que longtemps vous avez été l'unique comédien français qui, dans la journée, dès l'aube, tournait pour la télé ou le cinéma, et puis le soir par exemple pouvait enchaîner deux pièces de théâtre, l'une à 19h, l'autre à 21h, en se déplaçant en moto-taxi d'un théâtre à l'autre. Vous êtes toujours capable de ça ?
Oui, je suis toujours capable de ça, mais ça ne veut pas dire que je le fais forcément avec la fréquence qui a été la mienne à une certaine période. Non, non, là maintenant quand même, je fais encore pas mal de choses, hein. Mais contrairement à ce que je pouvais croire, je suis fatigable. Voilà, alors c'est magnifique, ce métier c'est toute ma vie, je l'aime, mais je ne peux pas non plus, à un moment donné, il y a aussi d'autres choses dans la vie. Il y a des enfants, il y a ma femme, il y a la vie tout court. Se mettre dans un fauteuil et regarder un paysage qu'on aime et rester une heure ou deux comme ça à rêver, c'est pas mal non plus.
C'est pas mal non plus. Oui. Mais je reparle théâtre parce que vous entrez dans une tranche d'âge à laquelle le répertoire classique offre vraiment de grands rôles, de l'avare au roi Lear, par exemple.
Oui.
Quel rôle, pour l'instant, manquerait à votre palmarès ?
Beaucoup, beaucoup. Enfin, les rôles alors qui manqueraient éventuellement, ce sont forcément des rôles classiques, parce que pour le reste, ça n'a pas encore été écrit, donc je n'ai pas de référence. Je voudrais jouer l'avare dans ma vie, Harpagon de Molière. Je voudrais jouer l'avare, peut-être, effectivement, le roi Lear.
Moi, pourtant, vous n'aimez pas Shakespeare, il paraît. Pas trop.
Écoutez, c'est pas bien pour un acteur de dire que... Mais écoutez, non, je ne peux pas dire que je n'aime pas Shakespeare. J'ai vu Shakespeare sublimement joué par des Anglais, dont c'est la culture. J'ai toujours un peu de mal à comprendre les tenants et les aboutissants des rois, des machins, des trucs comme ça. J'essaie de voir de quoi ça me parle réellement et je suis toujours un peu sur ma faim. Mais bon, c'est peut-être parce que je suis un imbécile et qu'après tout, ça n'est pas impossible. Ça n'est
quand
pas
même,
impossible.
Quand même.
Non, voilà, je suis pas un hystérique de
Shakespeare.
Voilà, mais ceci étant, je vais quand même peut-être à un moment ou à un autre m'attaquer au roi Lear, mais j'ai encore un petit peu de temps. Je suis encore un peu jeune, contrairement à ce qu'on pourrait croire. C'est un personnage qui a plus de 80 ans et je n'y suis pas encore.
En tout cas, vous avez participé, Pierre Arditi, au dernier film de Nicolas Bedos. Il sort quand et vous connaissez le titre?
La Belle Époque. Ah bah non, là il vient d'être fini. Alors là ça va mettre un petit moment. Il monte très lentement, Nicolas.
C'est vrai ?
Ah oui.
Donc il va falloir attendre combien ? Deux ans ?
Oh non, peut-être pas, mais enfin plusieurs mois. Oui. Oh oui, ça ne sortira pas avant la rentrée, pour ne pas dire la fin d'année. Oui. Voilà.
Michel Leb, ce film que vous portez en vous depuis tant d'années, ce film que vous rêvez de réaliser et de produire, bah, vous allez vous décider à le faire quand ?
Oh bah oui, non, là on a écrit quelque chose il y a peut-être une cinquantaine d'années, là maintenant. Donc on essaye de le monter, c'est pas évident, hein. c'est long. Et là, heureusement que ma fille Elsa, qui est devenue productrice, va peut-être s'en occuper. D'ailleurs, elle s'en occupe, c'est vrai, et peut-être réussir à monter ce sujet. Donc voilà,
Grâce le sujet, vous allez un voilà. tout petit peu
on verra,
nous en dévoiler ou pas du tout.
Oui, c'est une histoire assez particulière entre des rappeurs qui ont eu la même maison de disques que des moines qui se trouvent là-bas, je ne sais pas où, en pleine campagne. Et donc ces rappeurs vont passer quelques jours chez les moines, puisqu'ils ont la même maison de disques, et que, tout simplement, il y a une crypte qui fait un son tout à fait particulier, si bien que eux et les moines et ces rappeurs vont enregistrer ensemble ce qu'on pourrait appeler, je ne sais pas moi, des chants grégoriens rappés.
Voilà. Grégorien donc urbain, sachant que musical. Tous les moines n'ont pas de maison de disque.
Oui, c'est un film musical, donc, parce qu'il y a des chants grégoriens qui pourraient être adaptés en rap et inversement. Mais c'est vraiment une histoire de confrontation entre deux univers complètement opposés.
Vous allez le réaliser, mais vous jouerez dedans ?
Oui, je jouerai dedans, bien sûr. Oui, bien sûr. Et j'essaierai de le réaliser. Je ne suis pas sûr, ça, encore.
Alors, en fait, Michel Leeb, entre Mrs. Doubtfire et 12 hommes en colère, le spectre des aventures théâtrales que vous avez vécues, il est vraiment très, très large. Cette pièce de Philippe Claudel, j'y reviens, Compromis, cette pièce qui vous réunit donc, vous et Pierre Arditi, elle est très exactement à la croisée de tout ce qui vous a toujours amusé et de tout ce qui vous tente.
Oui et non, c'est-à-dire que c'est... Bon, d'abord, j'ai joué une pièce de Philippe Claudel qui s'appelait « Parle-moi d'amour » avec Caroline Siol. Et bon, à la suite de ça, moi, j'ai joué des pièces qui, sur le plan du jeu et du plaisir qu'on peut trouver dans le jeu, étaient vraiment extrêmement riches, comme par exemple « Amitié sincère ». C'est une pièce que j'ai jouée il y a une dizaine d'années, mise en scène par Bernard Murat. Et là, ce sont effectivement des rôles où on peut être à la fois drôle et assez et tragique. Quoi. Il y a des moments très... D'ailleurs, dans Compromis, il y a des moments où on est extrêmement drôle, où les phrases sont, et les répliques extrêmement drôles et complètement même absurdes et surréalistes.
Et parfois, c'est d'une vraie noirceur.
Et quelquefois, c'est d'une vraie noirceur et c'est extrêmement grave. Voilà. Mais c'est ce qui est fait la force de cette pièce et du plaisir que nous avons à jouer ces rôles, c'est justement d'avoir cette possibilité de passer sans difficulté du rire le plus évident à la noirceur la plus forte. Voilà, c'est ça. Voilà, ça, c'est un plaisir extraordinaire. Je ne sais pas ce qu'il dit, l'autre, là, il me regarde. Parce qu'il se marre.
Quand on parle un peu sérieusement,
comme il a du mal à suivre, il a du mal à suivre.
Voyez le clin d'œil de Pierre Arditi derrière vous, n'est-ce pas ? Un mot à rajouter peut-être, cher Pierre ?
Un mot ? Oui. Non, mais oui, c'est...
Plaisir, quoi.
Non, c'est un vrai plaisir. Non, ce qui est bien, c'est que le matériau est protéiforme, comme on dit aujourd'hui. C'est très à la mode, ce mot-là. C'est-à-dire qu'on passe d'univers totalement différent d'une seconde sur une autre. On peut rire dans la seconde qui précède et être perturbé, pour ne pas dire dévasté, dans la seconde
qui suit. Ah oui, complètement.
Donc ça, c'est formidable, quoi. On brinque-balle les univers. Ça, c'est
écriture géniale.
Eh bien, chacun, Pierre Arditi, Michel Leeb, chacun dans son registre est virtuose. Donc, il serait carrément impardonnable de rater au Théâtre des Nouveautés à Paris ce duo de grands fauves qui s'en donne à cœur joie sur un texte de Philippe Claudel intitulé « Compromis ». Merci à tous les deux, vraiment.
Merci. Ça nous a fait très très plaisir. Et puis, n'oubliez pas le nom du troisième, Stéphane Pesera.
Parce qu'on va entendre parler de lui.
On en parle déjà beaucoup
maintenant.
Et croyez-moi, on n'a pas affaire à un ingrat, on a intérêt à s'accrocher avec lui. Hein. Parce qu'il nous mange dans la main, lui. Bon.
Je vous embrasse tous les deux, à très vite.
C'était « Il n'y a pas qu'une vie dans la vie ». Demain, Isabelle Morizet recevra l'écrivain Yann Moix pour son nouveau roman « Rompre » paru chez Grasset. Une topographie de la rupture amoureuse dans un dialogue imaginaire. Rendez-vous donc demain dès 15h sur Europe 1.